Salut les métalleuses et salut les métalleux. Cette semaine, le créateur m'a laissé les manettes pour évoquer une légende musicale. AC/DC, les Australiens d'AC/DC. Alors pour ceux qui nous écoutent et n'ont jamais entendu parler d'AC/DC, eh bien, on ne peut rien faire pour vous. Enfin, si dans la chronique du créateur, on est là pour vous raconter de belles histoires, de guerres métalliques oubliées et raviver quelques gloires passées. Et pourquoi cette semaine une chronique sur AC/DC ? Eh bien, puisque le 13 novembre a vu la sortie d'un nouvel album. Donc ce soir, on n'est pas là pour se faire la bio du groupe, mais pour parler de leur 18e offrande musicale qui s'intitule Power Up. C'est un événement car ce n'est pas tous les ans que sort un album d'AC/DC et on se devait d'en parler dans la chronique du créateur. Jusqu'en 90, c'est l'excellent Razor's Edge, les Australiens avaient pour habitude de ne pas laisser plus de 2 ans entre la sortie de 2 disques. Par la suite, ils ont été moins prolifiques. Même s'il n'y a eu que 2 ans d'écart entre Stiff Upper Lip et Black Ice, on note des écarts plus grands. 5 ans entre Razor's Edge et Ballbreaker, 5 ans entre Ballbreaker et Stiff Upper Lip, et 4 ans entre Black Ice et Rock or Bust. Et ce nouveau Power Up a mis 6 ans à débarquer sur nos platines. Il faut avouer quand même qu'il faut s'en réjouir, car sa réalisation fait un peu office de miracle si on se pose sur les drames qui ont émaillé les dernières années du groupe. Tragique décès en 2017 de Malcolm Young, un des principaux compositeurs, et une maladie assez grave pour le chanteur Brian Johnson. Rien que pour cela, on peut se féliciter que AC/DC ait pu sortir un album. Cela dit, on va se concentrer sur la musique. Si on fait un petit focus sur la discographie d'AC/DC, on se rend compte objectivement qu'elle est clairement en dents de scie. Jusqu'en 1980, c'est un parcours sans faute. La triplette légendaire Let There Be Rock, Highway to Hell et Back in Black. Les années 80 vont être une succession d'albums moyens, voire mauvais. Qui va aboutir en 1990 sur un de leurs meilleurs albums qu'on oublie trop souvent, le mésestimé Razor's Edge, son mythique Thunderstruck et sa brouette de tubes à la production énorme. Je vais sûrement me faire des ennemis, mais ça ne fait rien. J'ai une bonne mutuelle, vous pouvez frapper fort. Mais mis à part le bon Ballbreaker en 95, le reste de la disco est dispensable et même oubliable et n'a servi qu'à organiser une suite de tournées de stade à des tarifs parfois délirants. Alors la question est, est-ce que la sortie d'un album d'AC/DC en 2020 est-elle un événement ? On peut légitimement se poser la question. Une légende musicale qui sort un album sera-t-elle jugée par les critiques comme les autres groupes ? Doit-on être une groupie et vénérer une idole sans réelle objectivité sur son art ? Une béatitude et une dévotion en dehors de tout critère qualitatif ? Qui est capable de donner aujourd'hui le nom du dernier album de Motorhead, par exemple ? Combien de personnes savent que Van Halen a eu plusieurs chanteurs après Ross ? Voilà, on en est là. Mais pas les petits gars de Killer on the Loose. Non, 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 on n'est pas ces gars-là, on n'est pas ces gars-là. Allez, on parle du Scud. Déjà, on remarque un bel effort sur la pochette et le packaging, simple, direct, et un logo bien catchy en néon rouge. Que valent ces 12 titres ? Il faut être honnête, tout est là. La voix rocailleuse de Brian Johnson, les chœurs sont là, la batterie binaire et la collection de riffs australiens sont là. Tout le savoir-faire d'AC/DC est là, bien aligné pour la parade. Le groupe nous enchaîne un best-of de riffs et de mélodies sur une production exemplaire qui ne peut cacher que tout est bien lisse sur cet album. AC/DC est devenu un cover band de lui-même. C'est sympathique à écouter à l'apéro en buvant une bière avec des potes, mais l'encéphalogramme reste plat. C'est bien, mais il n'a pas de magie, il n'a pas ce petit plus rageur qui fait qu'on adhère à tout le reste. Certains vont crier au retour du rock'n'roll, aux racines du blues. Sauf que la production nous dit tout le contraire. C'est sans faute, sans anicroche, sans petit Larsen qui traîne et visiblement monté en studio avec Pro Tools. Pour la spontanéité, on repassera. Les titres s'enchaînent sans réel déplaisir, c'est vrai. Au rayon des bizarreries, on notera quand même le jeu plus que limite est tellement binaire de Phil Rudd qui ne joue plus en 4-4 mais presque en 2-2. Appréciez sa tentative catastrophique de shuffle sur l'intro du titre Through the Mist of Time. On va leur rappeler quand même que Chris Slade est un killer et bien meilleur que Rudd. On notera aussi la manière un peu bizarre dont il prononce le refrain de Shot in the Dark. The Shot in the Dark. Comment ça peut passer en studio et finir sur le disque ? On réenregistre. Bon, tant pis. Il y a du bon quand même sur cet album, du relativement nerveux avec System Down, de l'entraînant avec Through the Mist of Time et Rejection. On aurait aussi aimé une participation d'Axl Rose sur un titre qui aurait été bienvenue et un beau clin d'œil au chanteur qui leur a permis de terminer leur tournée après la défection de Brian Johnson. Peut-être qu'ils auraient dû jouer cet album en condition live et nous balancer ça. Ça aurait eu plus de gueule. Au final, ce disque plaira aux fans de Johnny et ils pourront l'écouter avec leur belle-mère sans qu'elle soit choquée. Les titres ne sont pas mauvais, mais joués sans magie et sans cette petite étincelle rock'n'roll. Ça ne respire plus l'envie d'en découdre, ni la transpiration. Mais est-ce bien important? De toute façon, AC/DC fera le plein à sa prochaine tournée en vendant des gobelets à 2€, des cornes lumineuses à 10 balles dans un stade à 100€ la place. Rock'n'roll, mec. Bon, moi, en attendant, je vais aller m'écouter Thunderstruck, ou Highway to Hell, ou Back in Black, ou Wall of Lotharosis, ou Belch, ou Hard as a Rock, ou Bonnie Talks, ou Touch to Match.